Here's Anthropology.
À tout livre, le podcast avec Cécile Vidal et Paulin Ismar pour les mondes de l'esclavage aux éditions du Seuil.
Aujourd'hui, écoutez, je suis très heureux d'accueillir Cécile Vidal et Paulin Ismar. Cécile Vidal, vous êtes directrice d'études à l'EHESS et spécialiste de l'esclavage en Afrique sur la période plutôt contemporaine, 19e, 20e.
Ça, c'est Benedetta.
C'est ce qui est marqué sur votre fiche. Alors, il faut dire au seuil que ce n'était pas ça.
Alors, non, je suis moderniste, je suis américaniste. Et moderniste, donc je travaille sur l'Amérique du Nord et la Caraïbe, les mondes atlantiques en général.
D'accord, je vérifierai quand même dans le voir qu'il n'y a pas une copine, parce que s'ils ont changé vos fiches, c'est embêtant, je suis désolé.
C'est pas grave.
Paulin Ismar, vous êtes professeur à l'université Aix-Marseille, spécialiste de Grèce antique.
Rome.
De Rome. Ah oui. Bon, vous avez reçu quand même pour un bon, d'accord. C'est Rome.
Ouais.
C'est bon, on va spécialiste de Rome donc. Ah, ça commence très très bien.
Non, c'est pas vrai.
On vous avait reçu ici même, certains s'en souviennent peut-être, pour La cité et ses esclaves, paru aux éditions du Seuil. Voilà, donc déjà une thématique autour de l'esclavage, qui était centrée plutôt sur Athènes, qui n'est donc pas Rome, hein. On est d'accord. Et donc, le livre que vous nous présentez, je suis désolé, je suis un peu embêlé avec mes notes, mais ça va s'arranger à mesure que je vais passer le micro à mes petits camarades. Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, qui est un livre. Moi, j'en parle en tant que lecteur. Hein, je suis pas historien, donc c'est pas à moi d'en juger, mais qui, à mon avis, est un livre important, très important, qui fera date par son ambition, par son ampleur, par la rigueur des travaux exposés, mais pas seulement, également par l'historiographie que ça met en place et le questionnement que ça met en place sur la question des esclavages. À travers le temps et les espaces humains depuis toujours, enfin depuis que c'est répertorié, voilà. Donc un livre très ambitieux qui nous fait nous promener depuis la très très haute antiquité et même avant, puisqu'il y a un article de Jean-Paul Demoule voilà, sur la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et qui, on va en parler dans un instant, au-delà de ce balayage, j'allais dire, géographique et temporel, s'interroge vraiment, et pour moi c'est vraiment la réussite de ce livre-là, s'interroge à travers la définition possible de l'esclavage, sur ses formes, les différentes formes que ça a pu prendre au cours du temps, et évidemment que c'est pas l'esclavage n'est pas réductible à un seul type de fait de servitude, mais qu'évidemment les formes sont multiples et induisent un certain type de société également et de culture qui perdure dans le temps ou pas, voilà. Peut-être pour commencer, une question peut-être un peu rhétorique, mais qui va nous permettre d'entrer plus avant dans ce travail. Je vous demanderai, Cécile Vidal et Paulin Ismar, de définir un peu votre objet, c'est-à-dire les mondes, alors vous n'avez pas mis le monde des esclavages, mais les mondes de l'esclavage, donc ça suppose quand même au moins un certain nombre de traits caractéristiques qui permettent de définir l'esclavage par rapport à d'autres formes de servitude. Juste parce que c'est un auteur qui est important, je vais vous lire dans Le Monde daté d'hier un petit mot de Ahmet Altman, qui est auteur turc, qui s'est passé un certain nombre d'années en prison de façon arbitraire. C'est important pour ce qui va suivre. Je vous demanderai, à partir de son témoignage d'écrivain turc emprisonné aujourd'hui, à rebours finalement, de nous dire c'est pourquoi l'enfermement n'est pas l'esclavage. Il existe dans la vie des formes d'impuissance physique irréductibles. La prison en est une. On vous met dans une cellule et on enferme la porte. On vous jette hors de la vie. Vous êtes exclu, mais en plus humilié par des gens sans foi ni loi qui vous disent « tu n'es rien, on peut te faire tout ce qu'on veut ». Physiquement parlant, vous ne pouvez pas répondre à ce rejet en dehors de la vie, à l'éloignement des êtres chers, au fait concret et à l'humiliation morale d'être enfermé dans une cage comme un animal. Voilà, ça c'est un témoignage de quelqu'un qui est emprisonné de façon arbitraire. Donc à partir de, voilà, de ce témoignage d'écrivain, est-ce que vous pourriez, voilà, qui veut se lancer? Il faut se lancer à un moment donné.
Non, mais c'est difficile, mais je pense que quand même une des grandes différences, c'est qu'il n'y a pas de... dans l'esclavage, il y a quand même une mise à disponibilité de l'intégralité du corps de celui qui est esclave. Là, c'est pas le cas d'une situation d'emprisonnement comme celle-là. Bon. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire entrelacée entre l'enfermement, l'histoire de l'enfermement dans la très très longue durée, et l'histoire de l'esclavage. Et même dans la Rome antique, hein, y avait pas, les prisons n'existaient pas à Rome. Et il y a un passage du Digeste, enfin, il y en a même plusieurs, qui explique que si elles n'existent pas, c'est précisément parce qu'il y a l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage est substitutif à la peine de prison. Et il y a une histoire, disons, de croisée de l'esclavage et des formes de pénalité qu'on aborde un peu dans le livre, dans l'article consacré à l'esclavage pénal. Donc, évidemment, ces réalités, parfois, se rejoignent ou se conjoignent comme ça. Mais c'est deux choses assez substantiellement différentes.
Alors, qu'est-ce que pourriez... Cécile, si vous voulez...
Je sais pas.
Comme définition... Alors, du coup, des faits caractéristiques qui recouvreraient...
Une des définitions souvent mises en avant de l'esclavage est celle d'Orlando Patterson autour de l'idée de mort sociale, de non-reconnaissance des liens d'ascendance et de descendance, des liens de parenté, d'exclusion sociale, en fait. Et ce concept de mort sociale a été repris par les historiens de la prison, en fait, très souvent, et de la sociologie de la prison. Et on retrouve un peu cette idée d'exclusion sociale, d'être loin, mais, sauf qu'il est loin des siens, mais en revanche, ses liens ne sont pas totalement rompus. C'est quand même une différence majeure. Donc c'est une forme de mise à l'écart de la société, mais la rupture du lien social, elle n'est pas aussi radicale, en fait, que dans la situation esclavagiste. Mais ça a des échos. Et évidemment, comme américaniste, l'autre écho, là, c'est pas du tout la situation, parce qu'ils sont pas mis au travail forcé. Mais le développement de la prison pénale dans les Amériques a été longtemps interprété comme une manière de continuer, en fait, le système esclavagiste après l'abolition de l'esclavage. Alors, il y a des discussions autour de de cette continuité, discontinuité, mais à l'heure actuelle encore, avec l'incarcération massive des Africains-Américains dans les prisons états-uniennes et le fait qu'ils sont mis au travail pour pas grand-chose, les conditions carcérales sont dénoncées comme une nouvelle forme d'esclavage, en fait. Donc c'est un sujet brûlant politique.
Dans la définition, il y a aussi un point sur lequel j'aimerais vous entendre, puisque spontanément, si on faisait le tour de la salle, dans l'esclavage, c'est quoi? Grosso modo, je pense que tout le monde dirait qu'effectivement, il s'agit d'un travail captif et forcé, donc où l'exploitation économique est peut-être l'idée première qui nous vient en tête. Or, dans le livre, on découvre toutes sortes de formes d'esclavage qui ne correspondent pas forcément à cette définition-là. Et notamment, j'aimerais vous entendre là-dessus, puisque ça, c'est une chose absolument récurrente et à mon avis essentielle dans ce livre-là, c'est la question de l'esclavage sexuel. La question des femmes dans l'esclavage, évidemment pour le viol organisé à peu près systématique, mais aussi la question qui est encore corrélée à celle-là, qui est la filiation. Qu'est-ce que deviennent les enfants d'esclaves? Voilà, donc ça c'est vraiment pour le coup l'aspect économique n'est pas complètement évacué, mais n'est pas central. Donc j'aimerais vous entendre sur cette partie-là, parce qu'en fait, effectivement, il faut pouvoir faire rentrer cet aspect-là qui est massif dans la définition aussi de l'esclavage.
Alors, il y a des finalités économiques, il y a des finalités sociales à l'esclavage, et une des finalités sociales, c'est de s'affranchir des liens de parenté, de s'affranchir des règles de circulation des femmes, et d'où le développement en effet d'un esclavage conjugal et ou sexuel, le fait que dans beaucoup de sociétés esclavagistes, les femmes sont les plus nombreuses, en fait. Mais c'est une de ces modalités, et il faut bien comprendre que même lorsque la finalité de l'esclavage est d'abord économique, comme dans le cas des Amériques coloniales du 19e siècle, l'esclavage, enfin, ne peut être réduit à une forme de travail forcé, implique toujours, comme le disait tout à l'heure Paulin, un contrôle sur l'ensemble du corps de l'esclave. Et l'exploitation par le travail allait de pair avec une exploitation sexuelle des femmes esclaves aux Amériques, qui avait des finalités diverses, à la fois satisfaire les désirs sexuels des hommes blancs, obtenir éventuellement des esclaves, c'est-à-dire que c'est la question de l'hérédité de l'esclavage, et donc le fait que les enfants nés de ces unions demeurent en général esclaves. Et puis c'est un moyen de contrôle social, c'est un moyen de manifestation de sa, à la fois avec une violence qui est à la fois physique et symbolique, d'exercer un contrôle, d'empêcher les hommes esclaves. Enfin, ça transforme le rapport des hommes esclaves à leurs femmes, et réciproquement, en fait, les relations familiales et sexuelles entre les esclaves. Et donc, c'est aussi un moyen de contrôle social. Et donc, d'où une réalité importante de l'esclavage américain. Et je dirais que ça a des conséquences pour la sexualité et les relations de parenté chez les colons, les hommes blancs. Puisque ce qui est une des conséquences majeures, c'est la dissociation entre le mariage et la sexualité pour les hommes blancs. La possibilité d'exploiter les femmes esclaves leur permet, bien longtemps avant l'Europe, en quelque sorte, de dissocier sexualité et mariage.
Voilà. Sur la partie, vous en avez dit un mot, mais sur la partie d'hérédité, moi, j'ai l'impression quand même qu'elle n'est pas systématique. Est-ce que vous avez des cas, des exemples dans lesquels les enfants d'esclaves puissent être considérés comme affranchis ou nés libres ? Ma question n'est pas claire.
Non, mais parfois par exemple, c'est une situation très, très connue dans l'Antiquité, des maîtres font des enfants à des esclaves dans le but de les affranchir immédiatement. C'est-à-dire que voilà, donc ils sont esclaves et puis ils sont immédiatement affranchis. Après, tout dépend dans quel type de droit vous situez. Et donc, si c'est le statut du père qui gouverne le statut de l'enfant ou le statut de la mère. Enfin, parce que ça change quand même énormément de choses d'une société à l'autre. Donc, bon, je suis désolé.
Non, mais c'était parce que je posais cette question-là, parce qu'effectivement, intuitivement, on pourrait imaginer que la descendance, que les maîtres d'esclaves ont intérêt à avoir de nombreux enfants d'esclaves, puisque ça agrandit, c'est-à-dire la valeur. Or, il y a quand même des exemples qui sont. Ça ne se passe pas forcément systématiquement comme ça.
La majorité. En fait, quand on étudie l'affranchissement, et notamment aux Amériques, la majorité des esclaves affranchis sont des femmes ou des enfants. Et on soupçonne une relation avec le maître qui est à la fois le conjoint et le père. Mais on sait aussi que la majorité des enfants nés de couples mixtes ne sont pas affranchis. Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on parle de... Alors, une des choses qui m'a vraiment, moi, intéressé et marqué aussi dans ce travail-là, parce qu'il est très, très détaillé, très fouillé, là, article par article, j'aimerais vous entendre sur l'architecture même du livre. Juste un peu en préambule, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais moi, en tout cas, en tant que lecteur, c'est une qualité que j'ai trouvée au livre, c'est que les choses un peu attendues, par exemple le fait que l'esclavage soit forcément consubstantiel au capitalisme. Alors, on ne veut pas dire que l'esclavage ne soit pas consubstantiel au capitalisme, mais il y a plein d'autres cas où vous citez Adam Smith, un des grands théoriciens du capitalisme qui n'est pas forcément un soutien de l'institution esclavagiste. Mais au XVIIe siècle, on a Locke qui est très connu pour un traité pour la tolérance et qui est très très impliqué dans le système esclavagiste américain. À l'autre bout du spectre, il y a un article qui est consacré, que je trouve très intéressant, sur le goulag, c'est-à-dire en fait les millions d'hommes déportés en Sibérie et dans l'Oural et puis autour de pour creuser les fameux canals de l'Oural, c'est pas dans l'Oural, c'est bref les très grands canals, mmh. Les travaux monstrueux où il y a eu où effectivement là, on ne peut pas dire effectivement qu'il ne s'agit pas de développement capitaliste, pas exactement. On se pose la question de la propriété de l'esclave, en l'occurrence, du statut de ces travailleurs forcés. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre, et je vous passe la parole dans un instant pour nous dire un peu justement l'architecture, c'est que, d'une certaine manière, on n'est pas uniquement dans une vulgate marxiste. Ce n'est pas un énième livre, je veux dire, qui nous expliquerait la théologie de l'histoire avec une finale, voilà, avec un truc très, très, très balisé où tout est très attendu. Il y a beaucoup d'articles qui ont été très, pour moi, surprenants, des fois contre-intuitifs, dans le foisonnement en fait, des zones géographiques et des formes que l'esclavage a pu prendre. Et ça, c'est pour moi une des très grandes qualités de ce livre. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez un petit peu la façon dont vous avez travaillé et l'architecture du livre, qui a trois grandes parties, parce qu'il correspond pour moi vraiment à la philosophie générale de votre travail.
Notre projet au départ, c'était d'écrire à la fois, pour le dire très très rapidement, une histoire mondiale des esclavages et en même temps un livre d'histoire comparée au sujet des esclavages au fil de l'histoire. Donc il y a à la fois la volonté de décrire de très très nombreuses configurations depuis la préhistoire jusqu'au présent qui sont des configurations esclavagistes, et par ailleurs et surtout, de toute façon, parce que ça a été notre travail à 3, 4, à écrire, enfin à réfléchir, à entamer une démarche comparatiste au sujet de l'esclavage. Donc il y a ces deux dimensions dans le livre, avec cette énorme question, on aurait peut-être pu partir de là, qui est d'abord la définition même de l'esclavage. C'est-à-dire de savoir quand et dans quelle situation est-ce qu'on peut identifier l'esclavage. Parce qu'il y a une conviction qui nous réunit, c'est que l'esclavage est quand même un sujet suffisamment solide d'un point de vue scientifique, théorique, pour qu'on puisse l'identifier dans un nombre considérable de sociétés, et donc que ces sociétés peuvent, leur système esclavagiste, peuvent, d'une certaine façon, être comparés. Alors le livre, ensuite, tel qu'on l'a conçu, il y a trois parties. Il y a une première partie qui est composée de 50 articles qui, à chaque fois, font le récit ou interrogent des configurations esclavagistes spécifiques. Donc, alors qui ont des durées et des ampleurs géographiques très très différentes. Parfois, ça peut être une ville sur pendant 50 ans. Par exemple, l'article de Robin Law sur Ouida, donc sur un port de la traite transatlantique. Qui l'aborde sur deux siècles. Et puis, il y a un article de Cédric Ferrier sur l'Inde ancienne, qui aborde l'Inde ancienne sur six siècles. Donc c'est des configurations et même des types d'écriture qui sont à chaque fois sensiblement différents, l'idée étant quand même vraiment de désorienter le lecteur par rapport aux représentations un peu attendues qu'il a de l'esclavage, et lui montrer plein de situations... des types d'esclavage, des lieux, etc., des peuples auxquels il aurait pas songé. Et puis, dans la deuxième partie, donc, qu'on a écrit à 3,5, c'est-à-dire Benedetta, Cécile, moi et Mamed, qui est ici présent, qui est là, c'est des articles comparatistes où, à chaque fois, on prend des questions qui sont... c'est des thèmes, des concepts, la propriété, la mort, la dette, la justice, les révoltes, la résistance, l'affranchissement, les voies d'esclaves, le genre, la parenté. Voilà. Et c'est ça qui a pris énormément de temps à construire, parce qu'on a mis 5 ans en fait à écrire cette deuxième partie, parce qu'on écrivait, on se faisait relire les uns les autres, puisqu'à chaque fois on essaie de traiter tout à fait transversalement, c'est-à-dire vraiment de façon comparatiste, dans toutes les sociétés esclavagistes de l'histoire. Donc ça demandait à chaque fois un effort de lecture démentielle, mais on pouvait le faire que parce qu'on a ensemble, et parce qu'on a des spécialités évidemment très, très différentes. Et donc il y a cette deuxième partie qui de toute façon veut ramasser la réflexion et proposer comme ça des parcours transversaux. Et puis la dernière partie, qui s'intitule « Transformation », C'est des articles plus longs qui, d'une façon, reproposent d'une façon, une histoire du monde au prisme de l'esclavage. Donc en réfléchissant en particulier aux moments charnières dans lesquels les systèmes esclavagistes se recomposent, mutent. Donc il y a un article sur les monothéismes, sur l'expansion de l'islam et l'esclavage, sur l'ordre de la race dans l'Amérique aux Amériques, qu'a écrit Cécile, sur les abolitions. Et puis, il y a quand même une partie assez importante consacrée vraiment au présent, c'est-à-dire sur les réparations, la mémoire, la notion de post-esclavage. Bon, voilà comment le livre est conçu.
Cécile, vous voulez rajouter... Il y a une chose, alors peut-être pour entrer un peu plus avant dans justement un ou deux articles, voilà, qu'on ne s'en tienne pas que à des généralités, il y a une chose que j'ai trouvée assez captivante, c'est qu'effectivement, une des justifications, et ça c'est plutôt dans la partie, ça sera plutôt une question pour Cécile, la partie notamment américaine et période d'esclavage transatlantique, une des justifications de codification de l'esclavage, c'est le mythe d'un esclave issu du droit de la guerre. On a capturé quelqu'un, on avait un droit naturel, du coup on a obtenu un droit naturel, c'est ce que dit Locke, hein, ouais. Très clairement, on a obtenu un droit, naturel sur cette personne, et donc l'esclavage peut se justifier, se légitimer de cette façon-là. Or, on voit évidemment... notamment au travers du fait que des enfants esclaves naissent esclaves, que la question de la capture guerrière ne se pose pas du tout, et surtout l'intervention importante, c'est la question du commerce, puisque acheter des esclaves ou les capturer à une tribu voisine, c'est absolument pas la même chose. Qu'est-ce qu'il en est justement de ce mythe un petit peu de la capture guerrière comme tentative de légitimer l'esclavage.
Alors, il y a plusieurs façons de devenir esclave. Il y a la question de l'endettement, il y a la condamnation pénale, et puis il y a la capture. Lors de la guerre, lors de raids, et le plus souvent, les esclaves sont capturés. Ils peuvent ne pas être réduits en esclavage, c'est-à-dire qu'il faut différencier captivité et esclavage. Et on peut sortir par le rachat en fait, mais lorsqu'on est capturé et réduit en esclavage et vendu, enfin c'est une réalité qui est une des sources premières des esclaves dans de nombreuses sociétés esclavagistes à travers le monde. Donc c'est pas totalement un mythe cette idée, c'est une réalité. Ça veut pas dire que tous les esclaves deviennent esclaves de cette façon-là, mais que c'est une raison fondamentale mise en avant par nombre de sociétés esclavagistes, hein, pas seulement les empires coloniaux européens de la période moderne, mais dès l'Antiquité, en fait. Donc c'est vraiment une réalité importante, mais même quand ce n'est pas le cas, c'est une des justifications premières. Après, ça ne veut pas dire que, par exemple, pendant la période moderne, la question de la guerre juste était en effet un des titres légitimes de réduction en esclavage, mais il y en a d'autres. Le fait d'être né esclave en est un. Il y avait aussi la possibilité de se réduire soi-même en esclavage, de se vendre. Donc en fait, selon les droits, la manière dont on devient esclave et les conditions qui sont considérées comme légitimes varient en fait. Mais la question du rapport à la guerre demeure à chaque fois une centrale pour légitimer l'esclavage.
Sur le même sujet.
Non, j'ai rien ajouté. Enfin, dans l'Antiquité, c'est la grande justification. C'est le droit absolu qu'exerce le vainqueur sur celui qui est en sa possession. Alors après, il y a toute une question qui est très intéressante, qui est celle de la distinction entre captifs et esclaves. Parce que les captifs ne sont pas des esclaves. Et alors, par exemple, en Méditerranée antique... on voit très bien comment ça fonctionne, hein. C'est-à-dire des individus sont pris à la guerre. Pendant un certain temps, on va essayer de les faire racheter, ou ils vont pouvoir éventuellement même se racheter eux-mêmes. Et donc pendant ce temps-là, ils restent des captifs, et leur valeur sociale, c'est-à-dire le prix de rachat du captif, correspond à son statut social. Platon, à un moment, il est fait captif, il est racheté très 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 cher. Mais à partir du moment où il ne peut plus être racheté, il devient esclave. Et là, il n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire que là, sa valeur, même financière, en tant qu'esclave, c'est un autre marché. Donc le marché des esclaves et le marché des captifs sont quand même distincts et en même temps, ils sont articulés. Et il y a évidemment un champ très très riche de ce point de vue-là que Mamed connaît très très bien, qui est celui de la Méditerranée de l'époque moderne, où il y a toute une discussion pour savoir précisément si cette distinction entre captif et esclave est si pertinente que ça. Mais en tout cas, je crois que c'était aussi la question que tu voulais poser à Cécile, c'est que ce que montre Cécile dans son article sur l'ordre de la race, c'est justement comment les principes de légitimation de la réduction en esclavage change à l'époque moderne dans le contexte de la traite transatlantique et progressivement, alors selon une chronologie fine, complexe, la race émerge comme un principe permettant de légitimer la réduction en esclavage.
Oui, alors avant de répondre à ces questions, je rajouterais juste un élément important, parce que dans la manière de penser la relation esclavagiste, c'est essentiel. Dans le rapport entre guerre et esclavage, c'est l'idée qu'on réduit en esclavage les prisonniers de guerre parce qu'on les sauve de la mort et qu'ils sont donc redevables de la vie à ceux qui les ont capturés et ensuite à ceux qui les ont achetés. Et c'est en quelque sorte cette dette qui compense en quelque sorte l'acceptation, enfin qui est censé justifier l'acceptation de la condition servile et qui crée ce lien, enfin dans l'idéologie justement des maîtres, qui crée ce lien indissociable entre maître et esclave et le fait que l'esclave n'est plus inséré dans le monde social qu'à travers le maître à cause de cette dette de vie en quelque sorte. Et ça donne aussi en conséquence le pouvoir de vie et de mort sur l'esclave, le fait que en théorie et dans de non et en et en pratique, alors pas toujours en théorie, en fait parfois il y a des limites qui sont mises au droit de vie et de mort, mais en fait en pratique très souvent il est exercé, les maîtres peuvent en effet mettre à mort leurs esclaves de façon diverse et variée pour des raisons différentes, mais c'est voilà, donc il y a un lien très important entre la question de la guerre, de l'esclavage, de la mort et de la vie aussi.
Alors, on reviendra sur la question, on reviendra sur la question raciale plus tard, mais pour revenir un petit peu dans justement les articles un petit peu du début, puisqu'on a un spécialiste de la Rome antique à ma droite, Paulin Ismar, est-ce que vous pouvez faire à l'époque, alors moi j'avais choisi deux villes et une île, mais vous me dites que c'est une ville et une île, donc j'avais choisi la situation athénienne, de spartiate et l'île de Chios à l'époque de la guerre du Péloponnèse, puisque comme j'ai lu Thucydide cet été, ça tombait bien, je m'étais appuyé là-dessus, mais vous m'avez repris en me disant que c'était pas tout à fait ça, mais la question que je voulais vous poser, c'était de montrer qu'à une même époque, dans une même ère culturelle, l'appréciation du fait esclaviste semble un peu différent. Alors, notamment sur la situation entre Sparte et Athènes, mais vous dites qu'à Sparte, il n'y a pas d'esclaves, donc ça, ma question tombe un peu à plat, mais est-ce que vous pouvez nous faire un peu un panorama rapide sur notamment sur l'île de Chios, puisque c'est quelque chose que vous mettez particulièrement en avant dans votre article.
En fait, c'est un des articles de la première partie qui s'intéresse à l'île de Chios, qui, en fait, dans toute la littérature antique, on insiste sur le fait que l'Échiote, donc Chios, c'est une île qui aujourd'hui est vraiment à peut-être 20-30 km de la côte turque, donc on est vraiment plutôt dans le nord de la mer Égée, toute la littérature antique insiste sur le fait que l'Échiote aurait inventé l'esclavage marchandise avant même les Athéniens, c'est-à-dire qu'on explique à chaque fois que les Chiotes, les premiers, ont acheté des hommes à prix d'argent. Alors, à la fois pour aller les revendre un peu partout en Méditerranée, et on connaît quelques noms de marchands Chiotes, bon, et en même temps, et surtout pour les exploiter sur l'île même de Chios. Et ce que les historiens aujourd'hui reconstituent, c'est qu'il y a effectivement, alors à la fin du 7e, début du 6e siècle, quelque chose qui s'invente en Méditerranée orientale. C'est vraiment la naissance de ce qu'on peut appeler des sociétés esclavagistes. Donc, pas des sociétés, parce que c'est une distinction importante, et le livre réfléchit beaucoup sur cette notion de société esclavagiste. Donc, pas des sociétés qui ont recours à des esclaves, mais des sociétés qui font vraiment de l'institution esclavagiste le cœur de leur fonctionnement. Sociétés qui ne pourraient pas vivre sans recourir à l'institution de l'esclavage. Bon, et les quiotes, effectivement, inventent quelque chose qui ensuite va se répandre dans une grande partie de la mer Égée. Et effectivement, il y a cet autre modèle dans une grande partie de la Méditerranée de la même époque, qui est plutôt le modèle spartiate, qui, si on réfléchit aux catégories générales qu'on emploie pour distinguer, par exemple, le servage de l'esclavage, ce que font les Spartiates avec les ilotes, c'est pas de l'esclavage. Alors, il y a bien une servitude. Hein, et en grec, on parle bien d'une douleia. Mais les ilotes, vous pouvez pas les vendre en dehors de Sparte. Ils restent en famille. Ils n'ont pas été déportés. Ils parlent leur langue. Et surtout, ils sont attachés. Donc, il n'y a pas cette désocialisation ou cette mort sociale dont on parlait tout à l'heure, et surtout, ils sont attachés à un territoire, ils sont attachés à un clairos. Si un Spartiate possède des ilotes, en fait, il possède un territoire, et parce qu'il possède ce territoire, il possède ceux qui travaillent ce territoire. Donc c'est un droit qui pèse sur la propriété, enfin, sur la terre, et par extension, sur les hommes qui la travaillent. Et c'est en ce sens-là que ça s'apparente à cette espèce d'idéal type qu'est le servage tel que les médiévistes l'ont défini depuis très longtemps. Et il y a un article de ce point de vue-là dans le livre que je trouve assez impressionnant qu'a écrit Ludolf Kurenbourg sur l'Alsace du Nord. Alors voilà, parce qu'on parlait de dépayser par rapport aux représentations spontanées qu'on a de l'esclavage. Et c'est un article consacré à la transition entre l'esclavage et le servage, puisque le terme ne change pas, c'est « servus ». Alors, servus, pourquoi est-ce que les historiens, avec le même terme, servus, quand ils parlent du 4e, 5e siècle, emploient le terme d'esclave, et quand on parle du 12e siècle, on considère que c'est des serfs. En réalité, c'est difficile, ça va pas de soi. Dans les sources, le vocabulaire est le même. Mais en fait, ils montrent bien qu'il se passe quelque chose au 9e, 10e siècle, et c'est très impressionnant, c'est vraiment ce passage d'un droit qui pèse sur la personne, avec la disponibilité absolue de son corps, à un droit qui d'une certaine façon, abandonne progressivement la personne elle-même, à laquelle on reconnaît le droit de pouvoir fonder une famille, s'établir maritalement, mais qui pèse sur la terre, avec un nombre de contraintes énormes, hein, puisque les serfs, en l'occurrence, les esclaves devenant serfs, ne peuvent pas quitter une certaine zone, etc. Donc, c'est en ce sens-là que les ilotes, c'est pas des esclaves au sens esclavage marchandise.
Alors, j'étais induit en erreur par Thucydide, puisque je ne connaissais pas cette distinction des ilotes. Mais par contre, il raconte un fait qui se passe à Sparte et qui effectivement interroge, enfin, qui effectivement lui le choque, c'est le fait que les Spartiates régulent la population des ilotes, qui a tendance à venir, parce qu'il y a eu plusieurs grandes révoltes d'ilotes à Sparte, et que la question de la coercition, c'est-à-dire que quand vous avez des gens captifs, serfs ou esclaves, il y a bien la question de la surveillance et de la peur des révoltes, on va en parler, hein, je pense, elle est centrale. Or, la réponse spartiate, selon Thucydide, c'est qu'ils commettent un certain nombre de meurtres assez régulièrement sur des nouveau-nés, pour réguler la démographie. Alors, comme c'est vous qui avez écrit l'article démographie, la transition est toute trouvée. Mais sur ce, alors, est-ce que ces faits rapportés par Thucydide sont vrais ou pas, ça, c'est à l'historien de le dire. Mais c'est-à-dire que le droit, quand même, sur ces ilotes, va quand même jusqu'au contrôle de cette population, en tout cas en termes de démographie, en tout cas selon Thucydide.
Oui, mais chez Thucydide ou chez tous les auteurs, c'est pensé comme une guerre. C'est-à-dire que c'est une guerre, en fait, qui n'en finit jamais. Et la société spartiate est une société qui est en permanence en guerre contre ses propres ilotes. Mais, Mais c'est, les auteurs grecs ne le pensent pas comme ça pour des esclaves marchandises. Ils ne considèrent pas qu'un maître est en guerre contre ses esclaves. On est passé à un autre stade. Et quand les Ilotes se soulèvent contre les Spartiates et qu'ils arrivent à fonder un État au IVe siècle, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se convertissent à l'esclavage marchandise. Ils font venir des esclaves marchandises d'un peu partout. Mais enfin, c'est-à-dire que pour eux, il y a une distinction en fait, très nette entre... Et eux-mêmes ne se vivent pas comme, ou ne se présentent pas, puisqu'ils ont produit des textes comme des anciens esclaves. Donc c'est en ce sens-là que pour moi, ce n'est vraiment pas de l'esclavage.
Bon, très bien.
Mais après, que la démographie des esclaves soit une préoccupation constante dans toutes les sociétés esclavagistes de la part des maîtres, qu'il y ait des stratégies démographiques qui sont au cœur même des pratiques des maîtres, c'est sûr. Et on en parle.
Alors. J'en ai touché un mot, peut-être que, puisque je pense que la question démographique est en partie liée avec celle de la surveillance, et que vous êtes collé sur cette question-là, sur la question des révoltes. Parce qu'il y a deux choses, il y a effectivement les moyens coercitifs pour garder ses esclaves, en fait, sous le joug, et puis il y a également, en miroir, toute une fantasmagorie, une peur. Finalement, il y a des sociétés esclavagistes, pour beaucoup, en tout cas pour certains maîtres, une espèce de hantise de la révolte de l'esclave, hantise sexuelle notamment. Enfin, on en connaît pas mal d'histoires, notamment en Amérique du Nord, hein, même jusqu'au XXe siècle, sur la question du viol par des esclaves d'une jeune fille blanche. Enfin, ce genre de choses parcourt vraiment très très souvent la littérature, notamment nord-américaine. Et donc, la violence exercée est presque à proportion de la hantise de l'esclave révolté. Enfin, vous me direz si je me trompe.
Alors, je distinguerai en fait les hantises, en quelque sorte, les peurs des maîtres, parce que la peur des révoltes serviles, elle existe dans toutes les sociétés esclavagistes où il y a des concentrations d'esclaves importantes. L'association entre le viol et les hommes noirs, ça participe vraiment de la racialisation des sociétés coloniales américaines. C'est une dimension importante. Et perdure après, en fait, l'abolition de l'esclavage et encore plus ravivée, en quelque sorte, après l'abolition de l'esclavage. Mais en revanche, l'existence de révoltes serviles, donc j'ai écrit cet article, qui essaye de montrer, de réfléchir à... Donc, ce qui est la forme la plus violente, et enfin qui est une forme collective d'abord de résistance à l'esclavage, ce que ne sont pas toutes les modes de résistance à l'esclavage, et puis la plus violente et les conditions qui permettent ces explosions de violence à l'encontre des maîtres ou des systèmes esclavagistes, alors qu'en général tous les moyens sont mis pour empêcher le déclenchement de tels soulèvements, insurrections, et d'essayer de réfléchir aussi à aux raisons qui expliquent des fréquences différentes des révoltes, à la fois la fréquence, mais aussi le nombre, le caractère massif des révoltes d'une société esclavagiste à l'autre. Et avec en plus cette chose très incroyable, c'est-à-dire que d'un côté, il n'y a pas tant de révoltes que ça, et notamment de grandes révoltes d'esclaves. D'un autre, ils se révoltent. Moi, c'est presque incroyable la manière dont ils se sont révoltés, vu les conditions auxquelles ils étaient soumis. Et surtout, vu que la plupart des révoltes... pratiquement toutes les révoltes échouées, qu'une des seules exceptions, c'est pas la seule, mais c'est une des seules exceptions, c'est évidemment le succès de la révolte des esclaves de Saint-Domingue et la transformation de cette révolte en révolution qui a abouti à la première abolition de la traite et de l'esclavage de manière définitive, en fait. Donc ça, c'est un fait absolument remarquable. Et donc c'est cette tension entre cet échec presque universel et la fréquence néanmoins des révoltes qu'on j'essaye d'expliquer dans l'article et de montrer les variations. Et évidemment, la question démographique, elle joue un rôle parce que il y a évidemment plus de révoltes quand il y a des grosses concentrations d'esclaves. C'est disons que les révoltes sont plus massives, plus fréquente, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits soulèvements en permanence et qu'il faut justement penser ces mouvements dans leur diversité et tenir compte à la fois des grandes révoltes d'esclaves, certaines étant qualifiées de guerres serviles. C'est le cas dans l'Empire romain où il y a trois grandes guerres serviles, mais c'est un terme que les historiens américanistes ont aussi repris à leur compte pour désigner certaines grandes révoltes d'esclaves aux Amériques. Parce que c'est un autre lieu et une autre période, notamment la période 1750 de révolte servile intense aux Amériques, pour penser certaines grandes révoltes d'esclaves à ce moment-là.
Vous avez parlé des moyens d'empêcher cette révolte. J'aimerais vous en dire un peu plus, justement, parce qu'il y a des moyens, alors, légaux, avec toutes les guillemets qu'il faut, c'est-à-dire la variation des peines encourues en fonction des entorses faites par les esclaves. Ça, c'est très très documenté, c'est assez terrible. Enfin, les peines encourues, dissuasives. Donc, effectivement, dans certaines conditions, notamment sur l'esclavage sur des îles, évidemment, où il est très très difficile de s'échapper, le fait que si la révolte échoue, les perspectives de punition sont terribles. Il y a aussi, et moi, c'est ce que j'aimerais vous entendre vraiment sur la question de l'équilibre de coercitif, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit ça effectivement dans le livre. D'une certaine manière, il y a un certain nombre d'aménagements qui sont faits dans les conditions d'esclaves qui adoucissent d'une certaine manière la condition pour éviter. Donc finalement, plus on est dur avec ces esclaves, plus on risque une révolte et un cycle de violence coercitive encore plus fort, etc. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail sur les différents modèles un petit peu de contrôle des esclaves?
Alors, juste par rapport, je rajouterai quelque chose par rapport aux révoltes. D'abord, une des raisons de l'échec presque systématique de ces révoltes, c'est toujours la possibilité de faire venir des forces armées de l'extérieur. Donc, même si on peut les mettre peuvent être temporairement dans une situation difficile, cette possibilité en fait de faire venir d'une autre région, d'une autre province, voire de rivaux impériaux mais qui vous aident en cas de révolte est une des raisons majeures en fait de l'échec de révolte. Après, la question justement des formes très diverses de contrôle social, alors ça dépend évidemment des systèmes esclavagistes. Une des premières choses, c'est de maintenir les esclaves dans une vulnérabilité, une précarité où tout l'effort est mis à la survie, c'est-à-dire que quand on exploite dans le travail des personnes en les sous-alimentant, en leur fournissant pas les habits, les logements, en les rendant vulnérables à un certain nombre de maladies, où l'enjeu principal, c'est la survie, c'est déjà un premier moyen de contrôle social, parce que quand on cherche d'abord à manger, etc. Ensuite, il y a évidemment la violence qui joue un rôle crucial de différentes façons pour imposer la domination esclavagiste, la violence, la terreur aussi. Il suffit en fait de menacer de la violence. Mais il y a aussi toutes les formes, en effet, l'affranchissement fait partie en fait des modes de contrôle social, c'est-à-dire la promesse de la liberté et un moyen de faire accepter, notamment par exemple ce sur quoi travaille Mamet, c'est-à-dire que l'affranchissement par rachat, la possibilité de négocier avec son maître son rachat sur la longue durée, qui implique de remettre régulièrement une somme jusqu'à... c'est pendant ce temps-là, l'esclave ne s'enfuit pas, ne se révolte pas, avec cet espoir, en fait, de pouvoir se racheter lui-même. Et puis, c'est aussi... On voit bien dans par exemple les paramètres qui jouent à l'encontre de la fréquence des révoltes, c'est-à-dire que dès que les esclaves ont la possibilité de former des familles, possèdent quelques lopins, donc quand ils ont quelque chose à perdre, que ce soit des conjoints, des enfants, des biens qu'ils se transmettent, évidemment l'inclination à la révolte est plus forte parce que l'enjeu devient plus important. Donc ça participe également des modes de contrôle social. Et puis il y a le système idéologique, on parlera de la race, mais la plupart des formes d'esclavage impliquent des phénomènes d'infériorisation fondés sur la religion, l'ethnicité, la race, et ça participe évidemment de cette entreprise de contrôle social.
Vous avez parlé tout à l'heure pour mater des révoltes, le fait qu'on puisse appeler des armées voilà, pour nous aider. Ça met là, j'aimerais vous entendre peut-être tous les deux sur ce sujet, presque un paradoxe du droit, puisque dans la partie contemporaine, en tout cas, la question de l'esclavage était très très encadrée par le droit jusqu'à son abolition. Comment finalement un propriétaire d'esclaves qui est donc un privé peut faire appel à la force publique pour mater ses esclaves, par exemple, parce que la force publique peut très bien lui rétorquer que c'est pas son, il s'agit d'une entreprise privée qui n'a, la force publique n'a pas à voir là-dedans. C'est une question rhétorique, mais parce qu'en fait, c'est vrai que on arrive souvent, on voit bien à des paradoxes juridiques. Le système esclavagiste produit des paradoxes juridiques dans lesquels ils ont du mal à se dépêtrer eux-mêmes, que les abolitionnistes, dans lesquels les abolitionnistes vont s'engouffrer précisément.
C'est-à-dire que là, le paradoxe juridique, c'est que l'inexistence en tant que personne de l'esclave fait qu'il est sous la toute-puissance de son maître, donc il n'existe pas à proprement parler, que une situation de révolte le fait exister de fait sur la scène politique ou au moins militaire, et ça suppose quand même qu'à un moment là, disons, l'État ou le souverain le prenne en compte, enfin en tout cas lui donne une existence pour le réprimer. C'est ça le paradoxe.
Oui, mais oui. Un gouverneur civil pourrait très bien refuser son aide policière ou militaire
à un
maître privé qui aurait des problèmes avec ses esclaves.
Mais il y a quand même à chaque fois un ordre esclavagiste qui encadre et qui domine le droit privé qui est celui du maître sur ses esclaves. Et qui est bien un droit. Enfin,
et puis surtout, souvent les États bénéficient en fait et de la traite et de l'esclavage. Fiscalement, économiquement, et les gouvernants peuvent être eux-mêmes des maîtres esclavagistes. En fait, par exemple, aux Amériques, les membres des assemblées coloniales dans les colonies britanniques sont en grande majorité des planteurs esclavagistes. Donc, l'ordre public, ils le font aussi. En fait, c'est pas deux choses séparées. Et puis, ça relève de la responsabilité de l'État, le maintien de l'ordre public. Et donc, il y a une des raisons, en fait, de son implication dans le développement d'un droit esclavagiste dans les empires où ça n'existait pas, dans le cas anglais, français, etc. C'est précisément d'empêcher les révoltes, le marronnage. Et l'État se sent investi, en fait, de cette mission, parce que ça a des conséquences...
Je vous posais cette question parce que j'avais en tête autre chose.
Ouais.
On a reçu ici même Marcus Rediker, qui avait fait qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui avait fait un livre sur la révolte sur un bateau espagnol, dont j'ai perdu le nom du bateau.
L'Amistad.
L'Amistad, exactement. Ouais. Et je ne vais pas refaire l'histoire de cette révolte, mais ce qui était très intéressant dans son livre, c'était de montrer comment les Quakers et notamment tous les mouvements abolitionnistes aux États-Unis s'étaient emparés de cette affaire-là dans un vide juridique pour faire avancer la cause. Et notamment sur la question de la personne. C'est-à-dire que la personne, puisque les révoltés de l'Amistad sont arrivés sur les côtes américaines, ils n'appartenaient à personne. Ils n'avaient pas été encore vendus. Ils étaient juste. En plus, le trafic était déjà illégal.
Ouais.
Et donc, la question, c'était qui sont ces hommes ? Quel statut juridique ils ont ? Le propriétaire de l'Amistad ne peut pas les réclamer, puisqu'il n'est pas. Donc il y avait tout le grand procès. Bon, c'est une affaire très très répertoriée aux États-Unis, très connue, assez emblématique parce que là où je voulais en venir, c'est que les arguments abolitionnistes n'ont pas été d'un ordre philosophique. Ils ont vraiment rentré par le biais du droit et sur cette question de la personne juridique des esclaves qui sont ces hommes. Quel statut juridique ils peuvent avoir et pour quelles raisons ils pourraient être réclamés ou emprisonnés, etc. Et pour finir, d'ailleurs, ils vont gagner ce procès, ils vont être libérés. Enfin, les survivants, ils ne sont pas très nombreux.
Alors, pendant très longtemps, en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, la justice a plutôt servi la cause abolitionniste, a servi à légitimer l'ordre esclavagiste. Oui. esclavagiste et était un instrument de lutte contre la résistance des esclaves, les formes de résistance des esclaves. Les choses commencent à changer en effet dès qu'il y a l'abolition de la traite internationale et puis aussi à partir de l'époque révolutionnaire, quand l'esclavage est aboli dans certains territoires. Le voisinage d'États esclavagistes avec des États libres de régions, enfin, joue, fait qu'il y a, en effet, il peut y avoir conflits judiciaires, soit à l'intérieur des pays, hein, la question par exemple de l'Amistad, enfin, soit entre pays, la question de l'Amistad, parce que c'était un bateau qui était allé à Cuba en fait, et qui il se révolte, et puis et ils arrivent sur le territoire nord-américain, soit à l'intérieur des États ou dans des régions frontalières, les régions frontalières du Brésil ou aux États-Unis, entre les États esclavagistes et libres. Donc à ce moment-là, en effet, les esclaves vont se saisir et il y a toute la question des procès de liberté, en fait, et de cette possibilité d'être affranchi par la justice. En usant de ce droit différencié d'un territoire à l'autre. Mais c'est vrai aussi, par exemple, entre la métropole et les colonies. En fait, le débat abolitionniste est en partie lancé, notamment dans le cas anglais, par l'affaire Somerset, et la décision du Justice Mansfield en 1772 de libérer un esclave qui avait été amené en Angleterre et que son maître... avait emprisonné et voulait embarquer pour repartir vers les Amériques. Et les abolitionnistes ont soutenu en fait cet esclave et ont obtenu en quelque sorte une décision qui libérait l'esclave et surtout qui posait la question de la légalité de l'esclavage sur le sol métropolitain. Donc ça a joué. C'est un moment important dans l'histoire de l'abolitionnisme et en particulier anglais, et tout au long en fait, du combat abolitionniste, la justice, dans un sens ou dans un autre, parce qu'il y a parfois eu des décisions judiciaires à l'encontre des abolitionnistes, a joué un rôle en fait, dans ce combat. Mais ce n'est pas le seul endroit où ce combat s'est joué. Mais ça a été important, et ça reste une des apports des historiens, par exemple africanistes, c'est de montrer comment la longue abolition de l'esclavage, c'est-à-dire une fois proclamée l'abolition en Afrique, l'effectivité de cette abolition a été gagnée en partie par des esclaves en se tournant vers les juridictions en fait, pour réclamer leur affranchissement.
Voilà, sur cette question de l'abolitionniste. Est-ce que, par exemple, les mouvements abolitionnistes sont très documentés pour la partie des pays esclavagistes européens, évidemment. Est-ce que, dans le corpus, il existait des mouvements, par exemple, pendant la période de l'Antiquité, des mouvements de penseurs, d'intellectuels voilà, c'est-à-dire que au départ, on parle de droit, mais l'abolitionnisme est d'abord une position philosophique ou morale. On connaît les grands abolitionnistes européens, voilà, mais il y en a sûrement d'autres. Est-ce que
non. Enfin, il y a dans l'Antiquité, si c'est ta question, il y a des critiques de l'institution esclavagiste. Il y a toute une littérature sur le bon comportement que doit adopter un maître vis-à-vis de son esclave. Mais il n'y a pas de véritable pensée abolitionniste, c'est-à-dire de conception d'un monde dans lequel l'esclavage pourrait ne pas exister. C'est-à-dire que l'esclavage est une institution qui fait partie de l'ordre du monde et qui est fondamentalement indiscutée. Ça, c'est évident. Bon, Benedetta Rossi, qui a fait l'article sur les abolitionnismes et les abolitions, refait toute cette histoire. Mais pour parler justement de ce qu'on voulait faire dans le livre par rapport à cette question de l'abolition, l'article de Benedetta, il est très riche de ce point de vue-là, parce que Benedetta est africaniste, et en fait, ça produit quelque chose de singulier, de confier l'écrit, enfin de que ce soit une africaniste qui écrit sur l'abolition plutôt que des spécialistes du monde atlantique ou qui auraient une approche extrêmement naturellement centrée sur l'Atlantique ou centrée sur l'histoire européenne. Là, ce que fait Benedetta, parce qu'elle est africaniste, d'abord, c'est qu'elle exhume les questions ou les débats autour de l'existence ou pas d'un abolitionnisme à l'intérieur de l'islam et en fait à une période très ancienne. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'elle montre bien qu'il a dû exister des pensées abolitionnistes à l'intérieur de l'islam, mais aussi en Afrique, peut-être au XVIe, XVIIe siècle, même si tout ça est assez spéculatif, mais qu'il y a des traditions abolitionnistes qui ne sont pas spécifiquement européennes. Et puis surtout, elle montre bien que l'histoire... Cécile en parlait à l'instant, que l'histoire de l'abolition, dès lors qu'on la regarde depuis l'Afrique, bah, ce n'est pas du tout la même chronologie, puisque en réalité, l'abolitionnisme sert de propagande pour la colonisation de l'Afrique. Enfin, c'est un des éléments qui légitime la colonisation de l'Afrique à la fin du XIXe siècle, hein, les Européens intervenant pour mettre fin au commerce des esclaves et en particulier à la traite à destination des pays arabo-musulmans. Et en même temps, l'abolition de l'esclavage en Afrique coloniale va être extrêmement lente, très problématique, et elle revient sur toute cette histoire. Donc c'est typiquement le genre de décalage qui nous intéressait de produire, de la même façon que Claude Chevalère a écrit dans le livre un article sur une abolition totalement inconnue, qui est l'abolition chinoise de l'esclavage en 1910. Donc, où il y a toute une législation, alors en partie inspirée ou en tout cas influencée par les Britanniques, mais qui est très intéressante à suivre. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait de penser l'abolition européenne. Et aujourd'hui, dans le discours public, il y a parfois tout un discours sur lequel l'Europe aurait le monopole de la pensée abolitionniste. C'est presque devenu un lieu commun, qui est quand même un lieu commun problématique et qui mérite d'être discuté. Donc qu'est-ce que ça fait de penser l'abolition telle qu'elle a eu lieu depuis les pays européens, à la lumière de l'expérience chinoise ou tout simplement si on la regarde depuis l'espace colonial africain.
Alors, je vais venir à une question qui va intéresser particulièrement. Enfin, vous intéressez tous les deux, mais quand j'ai eu fini de lire ce livre, qui m'a pris un coup de temps et qui est passionnant, je me suis dit quand même que cette couverture qui était au fond très marquante était un peu paradoxale, puisqu'effectivement on voit cette photographie d'un homme noir. Voilà. Bon.
Non, mais attends. Non, c'est juste la photographie, c'est une photographie d'Alberto Henschel qui est recolorisée, qui est un photographe germano-brésilien. Qui a photographié des esclaves dans le nord du Brésil avant l'abolition de l'esclavage au Brésil. Hein, l'esclavage est aboli en 1888 et il les a photographiés à la fin des années 1860. Et c'est un travail qui est connu parce que sa volonté était aussi de mettre en valeur l'individualité, la dignité des esclaves.
En tout cas, évidemment, pour quelqu'un qui le regarde comme moi, sans ce renseignement, quand je dis paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement, tout votre travail consiste, on vient d'en parler, de montrer la multiplicité des formes et des espaces et des lieux d'esclavage, mais effectivement, spontanément, c'est vraiment le sujet sur lequel je veux vous entendre maintenant, le prototype, d'une certaine manière, de l'homme noir s'impose à nous. Et il s'impose à nous peut-être pour de bonnes raisons, puisque effectivement la traite transatlantique, par son fait très massif, et puis pour son implication dans le développement économique de nos propres sociétés, et par ses peut-être ses implications jusqu'à aujourd'hui, et probablement l'esclavage qui nous importe le plus
à nous Français, voilà, ou autres pays européens. Et effectivement, et c'est là, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment là-dessus que je veux vous entendre, c'est qu'effectivement, la question raciale dans cette traite-là est centrale. Et elle continue d'être, d'irriguer les problématiques liées à l'esclavage. C'est-à-dire que, donc, comme c'est, voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que c'est finalement, au début, je me dis, cette couverture n'est pas forcément bien choisie, mais en réalité, on peut aussi la comprendre du fait de l'importance. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les choses en disant, voilà, tel esclavage vaut mieux que l'autre. En fait, aucun esclavage mieux vaut qu'un autre. Mais par contre, le fait de distinguer une forme d'esclavage à un endroit, à un autre, en disant, voilà, bah, cette forme-là, d'une certaine manière, d'un point de vue politique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, dans l'incidence et la continuité de ces conséquences dans notre monde aujourd'hui, effectivement, la traite transatlantique est massive. Donc j'aimerais vous entendre vraiment sur cette question.
Alors, je dirais que la couverture, elle ne représente pas tellement la majorité des esclaves, pas tellement en termes de couleur, mais de genre. C'est plutôt le fait que ça soit un homme et pas une femme. Nous, avec Benedetta, on aurait beaucoup aimé la photographie d'une femme esclave. Ça n'a pas été possible pour des raisons de choix d'éditeur, etc. Et puis, on n'a pas trouvé, en fait, une image qui était aussi... C'est une image très forte. Voilà, mais donc, c'est plutôt la question du genre, la première. Parce que, par ailleurs, la traite transatlantique y participant... l'Afrique est un des continents qui a donné des esclaves à tous les autres continents. Et si on mêle les traites internes et les traites externes à destination de la Méditerranée, l'océan Indien, la mer Rouge, l'Atlantique, en effet, c'est des dizaines de millions d'esclaves. Donc c'est pas totalement... du coup, une erreur que de mettre, et c'est pas uniquement associé à la traite transatlantique, de mettre en avant une personne venant d'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est une première chose. Et en effet, une des choses importantes dans le livre qu'on a essayé de faire, parce que les études sur l'esclavage ont longtemps été dominées par les travaux sur les Amériques et sur le modèle à la fois de la traite transatlantique et de l'esclavage colonial et l'esclavage au 19e siècle aux Amériques, c'était de désaméricaniser les études esclavagistes tout en mettant en évidence le caractère singulier du système atlantique d'esclavage. Caractère singulier en raison du nombre, une question démographique, le fait que c'est une des traites justement qui, sur le temps le plus court, 366 années entre 1501 et 1867, a déporté a transporté de force 12 millions et demi d'esclaves entre l'Afrique et les Amériques, sachant que sur ces 12 millions et demi, 5 800 000 hommes, femmes, enfants ont été déportés dans la période 1750-1825. Donc ça dit quelque chose. Du caractère industriel de la traite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le fait qu'au maximum de la traite transsaharienne, il y a 8 000 esclaves qui sont déportés chaque année, 80 000 dans la décennie qui précède la Révolution française dans le cadre de la traite transatlantique. Voilà, donc ça, il y a cette dimension-là. Et ça permet de développer des sociétés esclavagistes où, dans la Caraïbe, par exemple, certaines îles comportent 80-90% d'esclaves. Saint-Domingue, à la veille de la Révolution française, c'est 500 000 esclaves, 30 000 bancs, 30 000 livres de couleur. Donc c'est des concentrations d'esclaves monumentales. Donc ça, c'est une autre caractéristique, singularité du système esclavagiste. Et l'autre, en effet, caractéristique, c'est la racialisation, en fait, de ce système atlantique d'esclavage, qui commence avec la traite. Et voilà. Et donc ça, c'est un sujet évidemment très important, sachant qu'il y a d'énormes débats sur quand et où est apparue la notion de race, si c'est uniquement dans les sociétés européennes ou dans les empires des Européens, si c'est lié aux croisades, à la colonisation, à l'esclavage. Parmi ceux qui pensent les rapports entre esclavage et race, est-ce qu'il y avait déjà de la race dans les esclavages de l'Antiquité, dans les mondes arabo-musulmans, dans le Sahel de la période moderne. Donc, il y a des historiens qui ont des positions différentes. Et le livre, en fait, reflète la diversité de ces positions. L'article de Julien Loiseau sur l'Égypte Mamelouk, lui, mobilise, convoque la notion de race pour penser la spécificité de l'esclavage des personnes venant d'Afrique subsaharienne. Moi, je parlerais de couleur, mais pas de race dans ce cas. Mais c'est des choses qu'on met sur la table. Et ce que j'essaye, en fait, dans l'article sur l'ordre de la race dans les mondes atlantiques, ce que j'essaye d'expliquer, c'est la conviction avec d'autres historiens que la race naît dans la péninsule ibérique, non pas en rapport avec la traite et l'esclavage, mais en rapport avec la situation des convertis juifs et musulmans. Et les différentes manières de les persécuter tout au long du XVe siècle, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe siècle. Et cette idéologie de la pureté de sang qui se développe d'abord à l'encontre de ces convertis juifs et musulmans va être transportée aux Amériques. Et en même temps, ça coïncide avec un moment où, en Méditerranée, où il y avait des esclaves d'origine très diverse et variée, où les gens pratiquant l'esclavage et les traites, c'est un carrefour de traite, et où les conditions en fait en Méditerranée et l'expansion portugaise le long des côtes d'Afrique font qu'il va se développer très tôt, dès le milieu du 15e siècle, une traite menée par les Portugais directement d'Afrique de l'Ouest vers la péninsule ibérique. Et que la démographie des esclaves dans la péninsule commence à changer. À 40% des esclaves à Valence sont des esclaves d'Afrique subsaharienne, alors qu'ils étaient minoritaires auparavant. À Lisbonne, 10% de la population est esclave, en grande partie des esclaves. Et donc, dès ce moment-là, on a une association entre esclavage et couleur. Mais c'est ensuite l'essor de la traite transatlantique. Et le fait que le système idéologique de justification de l'esclavage en Méditerranée, qui était justement associé à la notion de juste guerre, et donc il y avait un arrière-plan militaire et religieux, est transformé avec l'essor de la traite. Il y a un premier débat quand cette traite commence à être massive à la fin du XVIe siècle, sur la question des justes titres de réduction en esclavage des esclaves qui sont amenés aux Amériques. Et la conclusion de ce traité, c'est qu'on ne peut pas vérifier ces justes titres, mais peu importe, ce n'est pas une raison suffisante pour libérer ces personnes. Et on accepte en fait que, en dépit de ces titres, donc en allant à l'encontre du système traditionnel de justification, de légitimation de l'esclavage, on accepte de les réduire en esclavage, dans l'esclavage marchandise. Et c'est un des moments où se joue justement, à travers une série de débats, qui ont réduit en esclavage. D'abord, donc, la possibilité de transporter dans des conditions atroces, alors même qu'il n'y a pas de juste titre de réduction en esclavage. Et puis ensuite, ça va être la question du débat de la réduction en esclavage des Amérindiens. Et le fait que dans l'Empire espagnol, ce débat va se conclure par l'interdiction de l'esclavage amérindien. Et l'idée que les seuls qui doivent être réduits en esclavage, c'est les Africains. Et donc, ces séries de débats qui se passent au fur et à mesure de l'intégration des mondes atlantiques et de l'essor de la traite et de la colonisation des Amériques, auxquels on répond systématiquement au détriment des Africains et des descendants d'Africains. La question du métissage, la question du statut des affranchis et descendants d'affranchis. Et à chaque fois, et c'est l'ensemble de ces débats qui participent de la racialisation de ces mondes atlantiques et qui contribuent à racialiser ces sociétés, et la racialisation qui se manifeste dans à peu près toutes les relations sociales au sein de ces sociétés esclavagistes, et qui va ensuite donner naissance au développement de théories raciales, cette fois-ci, donc au développement d'un racisme scientifique, donc théorie philosophique, naturaliste, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais alors que très souvent, on prend le développement de théories raciales comme le commencement d'une racialisation, j'essaie d'expliquer qu'en fait, c'est une des conséquences de la racialisation des mondes atlantiques et un des moments où ça se systématise parce que commence à émerger l'abolitionnisme et qui veut justement défendre en fait théoriquement l'esclavage contre les abolitionnistes qui commencent à avoir le vent en poupe. Voilà, et donc c'est cette relation complexe entre traite, esclavage et race que j'essaye de montrer dans cet article.
Non, mais on n'a pas dit ça. Non, pas, non, mais pas, parce qu'à un moment dans la conception du livre, c'est poser la question, est-ce qu'on écrit un article race dans la seconde partie? Parce qu'effectivement, il y a parfois un usage aujourd'hui de la notion de race ou du terme de racisme qui, parfois, pour nous, je trouve, est insatisfaisant, au sens où ce qu'on désigne est en réalité pas très clair et des formes très... des formes très diverses d'altérisation, de minoration ou de naturalisation de la différence dans des contextes de domination sont qualifiées ou pensées à travers la notion de race. Et c'est ce qu'évoquait Cécile. Par exemple, la question se posait pour l'Antiquité, où c'est très, très minoritaire aujourd'hui, mais il y a quand même... certains chercheurs qui essaient de retrouver quelque chose comme le concept de race dans l'Antiquité. Et je crois, mais c'est pas moi qui le pense particulièrement, je veux dire, on est très nombreux à penser que précisément ça n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire que la notion de race, si on veut lui donner un peu de consistance scientifique, n'a aucun sens pour penser les sociétés antiques. Et encore moins pour penser ce qu'est l'esclavage dans l'Antiquité, puisque une des spécificités, par exemple dans le monde grec, c'est que n'importe qui peut être fait esclave dès lors qu'il quitte l'environnement de sa cité, qu'il soit grec ou non grec. Mais des Grecs esclaves d'autres Grecs, même de cités voisines, c'est extrêmement courant. Donc c'était important pour nous, évidemment, d'historiciser la question de l'apparition de la race et de son rapport avec l'esclavage.
Bien, alors moi j'aurais évidemment plein d'autres questions parce que le